Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Sporama, c'est parti pour une demi-heure d'information et de débat avec mes consultants. Amédine Si, à Columbus dans l'Ohio. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Jules Valentin Ngouet à Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Du côté de Kinshasa en RDC, nous avons Valdo Simon Yamba. Bonsoir Valdo.
Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
À Casablanca au Maroc, on salue Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis, dans ce studio, comme toujours avec moi, Lawal Dine Kosovo. Lawal, bonsoir.
Bonsoir Élisée.
On parlera ce soir des matchs en retard de la Ligue des champions de la CAF et du coup d'envoi de la saison 3 de la Basketball Africa League. Bienvenue à tous. Élisée Rumpatine pour vous servir. Allez, on y va. On jouait le week-end les matchs en retard de la Ligue des champions de la CAF pour clôturer la première journée des phases de groupe. On le rappelle, le Wydad de Casablanca et la Ali du Caire avaient manqué la première journée en raison du mondial des clubs. Et belle performance pour le club marocain qui a pris la tête du groupe A grâce à sa victoire 1-0 sur l'AS Vita Club. Un match qu'il fallait gagner à tout prix, selon l'entraîneur Wydadi Juan Carlos Garrido, qui ne voit pas la manière.
C'est un match très important pour nous. Nous souhaitons la victoire. Le résultat, c'est aujourd'hui très, très important pour notre avenir dans la Champions League. Je pense que toute l'équipe, tous les joueurs, tout le staff, tout le public, toutes les personnes connaissent l'importance des matchs d'aujourd'hui. Je pense que ça a montré dans le terrain que l'équipe a joué avec la concentration que c'est besoin pour un match comme ça. Nous devons être toujours très, très, très prêts pour chaque minute, parce que toujours chaque minute c'est important. Mais heureusement, nous avons gagné, il y a la victoire. Et félicitations à l'équipe et continuez.
Amine, le plus important, c'est la victoire, comme l'a dit Garrido.
Une victoire plus convaincante, Élisée, que lors de la précédente sortie du Wydad de Casablanca contre Petro Atlético. Il faut dire que, entre-temps, il y a eu le limogeage de Medine Afti, la nomination de Juan Carlos Garrido, une victoire en championnat en milieu de semaine. Tout cela a conforté un peu les certitudes de l'équipe du Wydad de Casablanca, qui a attaqué le match tambour battant, qui s'est créé de multiples occasions, mais il a manqué ce petit brin d'efficacité pour pouvoir, à la mi-temps, rentrer en tête du match. En deuxième mi-temps, le coaching a donné ses fruits puisque sur l'entrée de Ounes Jemé sur son premier ballon, il y a eu le but, le seul et unique de la partie, qui a permis Wydad donc d'engranger les 3 points de la victoire, de prendre la tête du classement de ce groupe avant un périlleux déplacement en Angola pour affronter l'équipe de Petro Atlético. Le Wydad retrouve quelque peu son standing, son rang. Il y a quelques certitudes supplémentaires dans le jeu, mais il va falloir quand même plus d'efficacité, parce que c'est bien curieux de voir le Wydad n'inscrire que 2 buts en 3 journées. Le Wydad qui est d'habitude beaucoup plus prolifique sur le plan offensif lors de ses participations en phase de groupe de la Champions League. En attendant, l'équipe congolaise a montré de belles choses. Une équipe avec un fond de jeu intéressant, de bonnes transitions offensives, une équipe qui n'a jamais paniqué face aux attaques du Wydad, mais qui a fini par plier les chines face à une formation marocaine beaucoup plus expérimentée et certainement que l'appui du public a été pour beaucoup dans cette victoire à l'arraché du Wydad de Casablanca.
Merci. Un score assez logique donc. Mais l'entraîneur du club de Kinshasa, Raoul Shungu, a fait part de son amertume sur l'arbitrage qui, selon lui, l'a désavantagé.
On n'a pas aimé la façon dont on a officié ce match. Wydad, c'est une bonne équipe, équipe forte, n'avait pas besoin de favoritisme. Ça, on l'a vu, tout le monde l'a vu. D'abord, il y a eu des cartons jaunes d'intimidation. J'appelle ça des intimidations. Toutes les fautes, c'était Vita qui faisait les fautes. Je ne pense pas qu'on peut faire tout un match 90 minutes, qu'il y a une seule équipe qui commette des fautes. S'il faut mettre ça de côté, c'était un match très disputé, à l'avantage en faveur de Wydad qui a monopolisé le ballon. Ensuite, il y a eu ce qu'il y a eu. On a encaissé le but. Je ne veux pas revenir encore sur les officiels du match. On a encore un match contre WAC chez nous. On a joué à l'extérieur. Je crois qu'on a la possibilité de rattraper les 3 points qu'on a perdus ici. Et ça, je peux l'assurer.
Valdo, que de regrets pour les Dauphins noirs qui doivent vite se reprendre.
des regrets assez faire parce que les Dauphins Noirs ont perdu, Élysée, mais avoir la physionomie de cette opposition, c'est une victoire méritée du Wydad Athletic Club de Casablanca qui a dominé son adversaire de bout en bout, quoique aidé par Fingy Maguema qui a marqué contre son camp. Une défaite qui place le club dernier du groupe A avec 3 points à 3 longueurs du WAC, à une longueur de Petro Luanda et GSK, ce qui veut dire que la qualification dans ce groupe reste encore jouable pour les clubs de l'RDC. Très vite, il faudra avec club se reprendre afin de maximiser les possibilités de rester dans la course pour une probable qualification au tour suivant. Vainqueur de la jeunesse sportive des Kabylie au match aller, Raoul Chungu et ses hommes peuvent bien tenter d'arracher les 3 autres points à cette formation, chose qui ne sera pas du tout facile à manœuvrer. Il y a donc intérêt de mettre les bouchées doubles et surtout faire fonctionner la ligne offensive qui peine à se mettre en évidence.
Une ligne offensive qui a brillé du côté du Caire où Al Ahly a dominé Coton Sport de Garoua 3-0. Un succès qui replace les Égyptiens, mais en revanche élimine les Camerounais qui ont essuyé le troisième revers de rang. Jules, les cotonculteurs n'y arrivent toujours pas.
Élysée, c'est le moins qu'on puisse dire avec cette troisième défaite d'affilée pour l'équipe de Garoua qui vient de retrouver la compétition d'élite des clubs dans sa phase sélective. Deux éléments combinés peuvent expliquer ces contre-performances. D'abord en interne, les Camerounais n'arrivent pas à produire durablement une copie convaincante tout au long d'une rencontre. Contre Mamelodi Sundowns, c'est le premier quart d'heure qui leur a été fatal avant de vivre une seconde mi-temps plutôt réussie. Le scénario s'est inversé face à Al Hilal au second match, une constante tout de même, avec ses cadeaux répétés de la défense camerounaise, comme cela a aussi été le cas devant Al Ahly ce samedi. De l'autre côté, à la décharge de Coton Sport, son groupe B est très relevé, avec deux anciens multiples champions d'Afrique, dont un récent demi-finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Le troisième larron, le club soudanais d'Al Hilal, possédant en Florent Ibengue, un entraîneur haut de gamme, qui a amené avec lui un spécialiste des coups de pied arrêtés, Lilepo, ce dont Coton Club ne rêve même pas. Il reste au club de Garoua à prendre progressivement et à s'inscrire dans la durée.
Déjà la quatrième journée démarre demain mardi avec 4 matchs au programme. À Médine, à Conakry, le Oroya reçoit le Raja de Casablanca qui l'a battu à l'aller.
Ah oui, Élysée, le Oroya de Conakry aura fort à faire hein, car les Guinéens feront face à une formation marocaine qui les avait battus lors de la troisième journée. Donc cette confrontation aura un parfum de revanche pour les Guinéens, les poulains de l'AP Bangara. Hein. Qui occupe la deuxième place du groupe avec 4 points derrière le Raja qui est leader, qui réalise d'ailleurs un parcours hein, sans faute. Donc les Guinéens doivent sortir le grand jeu s'ils veulent consolider leur seconde place. Donc le Oroya doit tout faire pour battre cette équipe du Raja de Casablanca. Ce sera une mission très très difficile car le Oroya sera handicapé hein, puisque ils vont jouer ce match au stade du 26 septembre de Bamako puisque le stade Général Lansanokone n'a pas été homologué par la CAF. Élysée.
Amine Birouko, les Rajaouis doivent pouvoir confirmer leur forme du moment.
Une bonne forme du moment confirmée par une victoire ce samedi en championnat contre le Chabab de Mohamed Diem, 1-0. Le Raja, qui a livré une copie parfaite en Ligue des Champions sur les 3 précédentes sorties, 3 victoires, 10 buts marqués, 0 but encaissé. Une formation qui commence à avoir des automatismes bien huilés. Des postes qui sont doublés, mais il va falloir faire face à la furia de l'équipe d'Oroya Conakry qui jouera loin de ses terres, mais dans une ambiance plus favorable qu'à Casablanca. Ce sera au Mali, à Bamako, sous le Cagnard. Ce sera également l'occasion de voir une équipe guinéenne revancharde qui a pu ajuster sa stratégie après cette défaite contre le Raja de Casablanca. Mais le Raja a plus d'un atout dans son jeu. Un gardien de but expérimenté comme Nesniti, une bonne charnière centrale avec Mouqaddem, ex de la Renaissance partie de Berkane et Harkes, un milieu de terrain qui commence à trouver ses marques et puis une bonne ligne d'attaque avec le trio Bouzouk, Khaba et Habti, sans oublier les retours attendus de Zarhouni qui inscrit le but contre Oroya, le deuxième en l'occurrence, et puis l'expérimenté Hafidi qui peut rentrer en cours de jeu et peut distiller de très bonnes passes dans les intervalles pour permettre à l'équipe du Raja de l'emporter. Un nul suffirait au Raja pour se qualifier pour les quarts de finale. Vivement, bien évidemment, que les Rajaouis puissent rapidement mettre de côté le dossier Ligue des Champions pour pouvoir se consacrer davantage aux joutes domestiques en attendant la suite de la compétition.
Pour les autres affiches, Simba de la Tanzanie offre son hospitalité aux Ougandais de Viper. Ok, Zamalek sera face à l'Espérance de Tunis et à Alger, le CR Belouizdad en découdra avec les Soudanais d'Al Merrikh. On aura aussi les quatrièmes matchs de groupe en Coupe de la Confédération. Et Lawal, l'ASCO de Kara va recevoir les Égyptiens de Pyramide.
Oui, Élisée, il faut comprendre que l'ASCO de Kara a fort à faire à domicile parce que déjà à l'aller, cette équipe a été défaite. Il faut espérer que le foot togolais, on l'a dit la semaine dernière, retrouve ses marques de noblesse. On le leur souhaite vivement qu'ils puissent remonter la défaite du match.
Le club est cassé, dernier de son groupe avec seulement un tout petit point.
Dernier, après quelques journées, ce n'est peut-être pas encore grave.
Puisqu'il
on peut encore
trois matchs.
Rattraper l'essentiel. L'essentiel pour moi, connaissant le foot togolais, l'essentiel est pour moi que ASCO de Kara puisse véritablement se relancer et faire plaisir aux Togolais parce que le foot en Afrique pour le Togo depuis quelques années est presque mort, on va le dire comme ça, étant donné que l'équipe Fanion, les éperviers, ont manqué la CAN pendant plusieurs éditions. Il faut que le Togo revienne sur le devant de la scène footballistique africaine afin qu'on puisse sentir que le foot existe véritablement au Togo, Élisée.
Voilà, et qui est clair. Difficile aussi pour les trois clubs congolais Valdo qui seront tous en déplacement. Le TP Mazembe à Monasti, le Daring Club Motéba Pembe au Nigeria pour affronter Rivers United et le Saint-Éloi Lupopo sera en Libye pour affronter Al-Agda.
Élisée, ces déplacements des clubs congolais s'annoncent capital et décisif puisque le résultat de cette journée va décider de la probabilité des qualifications au prochain tour des uns et installer les doutes pour les autres. Surpris à domicile par l'US Monastir sur le score de 2-0, le tout-puissant Gleber Mazembe n'a pas d'autre option que d'aller chercher les 3 points à l'entame de la manche retour puisqu'en cas de défaite, ça sera la troisième consécutive. Et dernier de son groupe avec 2 points, le DSMP est appelé à montrer un autre visage, mais seulement comment s'y prendre puisque les dirigeants du club peinent à trouver une parade financière afin de booster le moral du joueur pendant que le club navigue entre match nul et défaite. Victorieux d'Al-Akhdar sur la note d'un 1-0, Lupopo s'est dit sortir du trou pour une nouvelle dynamique et ce, après 2 défaites, le club de la RDC compte obtenir le maximum de points de cette double confrontation après s'être offert sa toute première victoire dans cette phase des groupes.
Merci Valdo. On vient à vous Jules. Les Diables Noirs du Congo ont aussi une revanche à prendre devant les Ivoiriens de la SEC d'Abidjan.
Élisée, il faut d'abord dire que cette affiche Diables Noirs à SEC entre les équipes historiques les plus populaires du Congo et de la Côte d'Ivoire va sûrement provoquer des sensations chez les nostalgiques des grandes rencontres du passé. Sauf qu'au vu du contexte actuel, la grande foule ne sera plus au rendez-vous. Et c'est dommage, car quoi de mieux qu'un stade bondé pour doper une équipe revanchable, comme c'est le cas pour les Diables Noirs, battus à la régulière à l'aller par une équipe de la SEC qui trouve progressivement ses marques. En effet, la partition présentée à Yamoussoukro par les Poulains de Julien Chevalier a été convaincante. La SEC a mis du temps pour prendre la mesure de son adversaire et porter l'estocade dans la deuxième moitié de la seconde partie grâce à un Karamoko en état de grâce. Cet avantage psychologique et au marquoir oblige les Diables Noirs à prendre des risques ce mercredi afin de se relancer, ce qui n'est pas sans danger.
Voilà qui est clair. Pour le reste, on aura droit au choc du groupe A, Marumo Galant d'Afrique du Sud second, qui reçoit le leader, l'USM Alger, de son côté. Le Phare de Rabat en tête du groupe C se rendra en Égypte pour affronter Futur FC. Amine, un gros match pour les militaires vainqueurs à l'aller.
Même constat pour l'équipe des Phares qui ont gagné encore en championnat et qui ont conforté davantage leur leadership au classement. Il faut dire que la formation marocaine reste sur 5 victoires d'affilée dans la Botola et sur 2 succès marquants, probants en Coupe de la CAF, que ce soit contre la Skara ou contre l'équipe de Futures. Le déplacement en Égypte se déroulera avec un effectif au complet, une équipe qui possède une profondeur de banc de touche, des certitudes dans le jeu. Et puis, avec un public qui a l'habitude de se déplacer, on verra beaucoup de supporters de l'AS Phare prendre le vol, le Casablanca, le Caire, pour venir soutenir une équipe militaire en pleine confiance. Il faut dire aussi que la formation égyptienne n'a pas la popularité de l'Ali et du Zamalek. Ce sont des clubs d'entreprise, ce sont des clubs qui n'ont pas une assise populaire. Et c'est surtout une formation de Futures qui reste sur 2 points sur 9 possibles, 2 nuls en déplacement au Togo et contre l'équipe de Pyramids lors du derby Kérot qui s'est déroulé lors de la deuxième journée. Et en cas de contre-performance, ce serait l'élimination et la qualification de l'équipe de l'AS Phare. Donc on verra une formation égyptienne certainement avec l'envie et la volonté de l'emporter pour préserver ses chances, et un club marocain entraîné par le français Fernando da Cruz, capable aujourd'hui de se sublimer et pourquoi pas de composter son ticket pour les quarts de finale dès cette 4e journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAF.
Le dernier match se jouera à Dar es Salaam où l'AS Real de Bamako sera l'hôte des Tanzaniens du Young Africans. La balle au panier à présent pour dire que c'est la conférence Sahara qui donne le coup d'envoi samedi de la 3e édition de la Basketball Africa League. Le match d'ouverture opposera l'AS Douane du Sénégal à Abidjan Basketball Club de la Côte d'Ivoire. À Médine, à Dakar, les douaniers chercheront à faire mieux que les étudiants.
Tout à fait, Élisée, le coup d'envoi sera donné ce samedi à la salle Dakar Arena de Diagno au Sénégal. Les champions du Sénégal qui avaient disputé la première édition donc retrouve cette grande messe du basket africain version club. Les poulains de Mamadou Gueye Pabi tenteront non seulement de faire mieux que le Duc qui s'était arrêté en match de poule, mais aussi de faire mieux qu'en 2021 puisque la Douane avait réussi à se qualifier pour les playoffs. Et pour cela, l'équipe des soldats de l'économie a réussi à recruter des renforts de taille avec l'arrivée des 2 Américains. Je vous parlais de l'ancien meneur de l'AS Salaam, Terret Slogel, qui a été élu meilleur marqueur de l'histoire de cette balle avec une moyenne de 30 points par match. Mais il y a aussi Marcus Chris Crawford, qui est un excellent basketteur. Avec ses 2 recrues, l'AS Douane ambitionne de jouer au moins les demi-finales. Élisée.
Voilà, et en deuxième heure, les Rwandais d'Energy Group joueront les Nigériens de Faucon. Et en clôture de cette première journée, le stade malien sera opposé aux tenants du titre, les Tunisiens de l'US Monastir. Il faut dire que cette année, les organisateurs veulent faire la promotion des jeunes talents de la NBA Academy. Ils vont intégrer chacun des clubs qualifiés. L'idée est de les mettre dans les conditions de compétition pour leur permettre de gagner en maturité. On écoute à cet effet Amadou Galofal, président de la BAL, au micro d'Amérique.
Nous sommes très fiers de ce programme de Elevate qui expose les jeunes talents qui existent, qui sont au niveau de la NBA Academy Africa, qui se trouve à Sali. C'est maintenant un groupe qui a grandi. Plus de 25 jeunes talents de plus de 16 pays africains qui sont là-bas, qui s'entraînent et qui voyagent à travers le monde pour jouer contre le groupe d'âge. Des prospects se révèlent. Beaucoup de joueurs sont dans le collimateur de Scout NBA. Et nous avons le grand plaisir de pouvoir les intégrer dans les équipes de la balle. On avait commencé l'année dernière en assignant ces joueurs à chaque équipe de la balle en fonction de leur nationalité et de l'origine de leur club. Mais cette année, la nouveauté, effectivement, c'est qu'on a effectué un draft sans tenir compte des nationalités. Les équipes ont choisi, selon leur position de choix, les 10 équipes dans une corbeille, puis tiré au sort, celui qui avait le premier choix a choisi les joueurs. On leur avait envoyé des informations par rapport à tous ces joueurs de la NBA Academy qu'ils ont étudiés et la draft s'est très très bien passée. Alors ce programme Elevate était destiné d'abord à contribuer, à aider ces jeunes talents dans la maturation de leur développement, mais aussi pour nous d'influer, d'insuffler une nouvelle énergie, du talent jeune, des jambes fraîches, pour l'amélioration de la qualité du jeu sur le terrain, qui reste vraiment notre priorité.
Alors Jules, des nouveautés pour faire la promotion des jeunes basketteurs africains?
Élisée, il faut dire que la dynamique de revitalisation du basketball du continent, désormais reconnu comme un réservoir formidable de futurs talents, avance à pas de géant à travers le nouveau concept de Basketball Africa League. Pour ce qui n'est encore que la troisième édition du genre, l'introduction des champions en herbe de la NBA Academy permet déjà d'entrer dans le vif du sujet en transformant cette compétition qui a déjà ses lettres de noblesse en véritable vitrine des talents potentiels. Les 12 éléments choisis cette année devront alors sauter sur l'occasion pour taper l'œil des recruteurs, toujours en quête de renouvellement d'effectifs. Du coup, ce qu'on désirait se matérialise de plus en plus. Voilà l'Afrique arrimée à la caravane à succès et qui voit ainsi offrir à sa jeunesse une fenêtre supplémentaire vers une possibilité de réussite. Ce n'est pas automatique, mais ça devient possible. Alors, pourquoi ne pas rêver?
Ils sont au total 12 jeunes qui prendront part à cette troisième saison de la compétition. Valdo, on peut dire que la relève est assurée?
Bien entendu, Élisée, la relève est nettement assurée et ce n'est pas n'importe quelle relève. Une relève qui est bien préparée à garantir d'une part l'avenir du basketball africain et de l'autre à exploser son talent. Cette façon de faire est une occasion pour les organisateurs de montrer aussi à la face du monde et du continent leur nouvelle politique d'encadrement des jeunes. Une première expérience qui va certainement susciter davantage d'envie chez les jeunes de s'adonner encore et encore à la pratique du basketball. Avec ces 12 de l'Académie de la NBA, cette troisième saison d'African Basketball League sera encore un peu plus attractive car il y aura un regard particulier sur eux. Pourvu que cela ne leur apporte pas une pression négative, ils auront là l'occasion de démontrer le pourquoi du choix des organisateurs. Et pour certains, ça sera le début d'une nouvelle aventure avec le basketball en compétition proprement dite.
Alors, Lawal, la balle change de dimension à chaque édition.
Oui, Élisée, l'idée première de la Basketball African League était donc d'avoir la pépinière et les 12 qui vont intégrer chacun des clubs qualifiés vont commencer par faire l'expérience donc de grandes compétitions. C'est déjà important. Mais on aurait aimé avoir peut-être 24, 36 jeunes à la fois. Mais comme c'est un début avec les 12, on va voir ce qui va se faire. Et l'autre avantage de cette Basketball African League, c'est que les clubs africains ont commencé par changer de dimension, ouais, par évoluer, par se professionnaliser davantage. Et on constate que le basket en Afrique a pris une nouvelle dimension, ouais, à changer carrément de paradigme, et c'est ça le plus important. Beaucoup de talents africains vont forcément aller du côté des États-Unis pour montrer qu'il y a beaucoup qui est fait et sur le terrain. Donc l'idée première des gens et cette ingéniosité que les gens ont à vouloir ramener le basket à sa plus grande dimension sur le continent, je pense qu'il faut tirer chapeau à ceux qui ont eu l'idée et il faut espérer que ça puisse prospérer, Élisée.
Ouais, merci. Et Lawal, on se donne rendez-vous lundi prochain.
Rendez-vous pris, Élisée.
Sporama qui s'achève. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.